Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chimères, des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Lorsque nous entrons dans la nouvelle année, Dieu nous donne une grâce de faire que chaque jour, c'est le même jour pour tout le monde. Mais c'est notre résolution, notre attitude, notre façon de voir, de projeter les différents jours que nous allons soit échouer ou réussir. C'est pour cette raison qu'il est très important de démarrer cette année avec une attitude de détermination pour réussir, pour autant que cela dépende de nous. Le message de ce premier dimanche de l'année, nous l'avons donné pour titre « Dieu est plus grand que toutes nos craintes ». Dieu est plus grand que toutes nos craintes. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, versets 8 à 20. Je m'excuse pour ma voix qui est un petit peu enrouée. Quand je me suis réveillé ce matin, elle était très claire. Je pense que c'est le froid de cette salle qui me l'a dérobé un peu son beau timbre pour me donner ce vilain timbre enroué, mais tant pis. Ésaïe 41, verset 8 jusqu'au verset 20, ensemble à haute voix, nous lisons. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, ne te rejette point, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien et ils périront ceux qui les disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui suscitent querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de poils. Tu écraseras. Tu boiras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera. Un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Les malheureux, les indigents cherchent de l'eau. Il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que les saints d'Israël en est l'auteur. Amen. Cette prophétie d'Ésaïe s'adresse au reste d'Israël, c'est-à-dire aux Juifs rescapés de la captivité, de l'exil de Babylone. Ces Juifs devait faire face à deux grands défis. Le premier défi, c'était un long voyage de retour dans leur pays. Lorsque ils ont reçu l'autorisation de retourner en Israël. Le voyage était long, le voyage était difficile. C'était le premier défi. Il y avait beaucoup d'ennemis sur la route et beaucoup d'embûches aussi. Le deuxième défi, c'était de rebâtir cette nation qui était détruite, de rebâtir le temple, les villes. Et, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'ennemis étaient contre ce projet. Nous le voyons quand Esdras a décidé de retourner pour rebâtir le temple. En lisant ce livre d'Esdras, ils ont dû jeûner. Et le roi, sentant la menace et le danger de ce long voyage, a proposé qu'il y ait une escorte militaire pour les accompagner. Le voyons avec Néhémie. Lorsqu'il retourne pour rebâtir la muraille de Jérusalem, combien d'ennemis se sont levés avec un seul but de les empêcher de rebâtir. Connaissons l'histoire de Sanballat, de Tobija et consorts. Comment ils ont tout fait pour que ce projet s'arrête. Donc, le reste d'Israël rescapé de l'exil de Babylone, devant ce défi, avait peur. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Alors, dans cette prophétie, Dieu s'adresse à eux, au verset 10, pour lui dire, « Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens. » De ma main droite triomphante. Israël avait tellement peur pour l'avenir que dans ce court texte, sept fois, le Seigneur lui demande de ne pas craindre, de ne pas avoir peur. N'oubliez pas que ton Dieu est plus grand que toutes tes craintes. Ce Dieu-là, il est avec toi, il te soutiendra. Cette fois, il est dit, ne crains rien. Regardez au verset 10, chapitre 41. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Verset 13. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Verset 14, ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Au chapitre 43, verset 1, ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Au verset 5, ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Au chapitre 44, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Au verset 8, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Hallelujah. Ne crains pas, vous êtes mes témoins. C'est Pierre qui nous dit que Dieu nous a appelés des ténèbres pour annoncer ses vertus. Parce que tu as un témoignage pour prouver au monde que ton Dieu est vivant. Alors Dieu fera ce qu'il a promis de faire en ta faveur. C'est parce qu'Israël avait peur que Dieu lui envoie ce message. Le mot crainte ou le mot peur mentionné dans ce texte a deux significations. Il y en a quatre, mais les deux autres ne nous intéressent pas. La première signification de la peur, c'est une émotion de la peur au moment des faits. Exemple de la peur qui vient de l'émotion. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 5, verset 5, quand Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, la Bible nous dit qu'il y avait un tremblement de terre, du feu, et une voix est sortie du milieu du feu. Alors, à la vue de cela, tout Israël avait peur, était pris d'émotion, de peur. Ils ont tremblé. Ils ont dit à Moïse, le spectacle est épouvantable. Nous ne pouvons pas tenir ce spectacle. S'il te plaît, Moïse, va seul voir Dieu. Il te parlera et tu viendras nous donner le rapport. Nous ne voulons plus voir ça. Ça nous fait peur. Ça, c'est l'émotion. C'est comme lorsque le géant Goliath, il apparaissait devant Israël. Voyez, ce grand homme-là, la Bible décrit comme un costaud, comme il n'y en a pas beaucoup, n'est-ce pas? Quand Goliath se présentait devant Israël, rien qu'à son aspect, tout le monde perdait le courage. Saül lui-même, ils avaient peur. Ça, c'est une peur provoquée par l'émotion. La deuxième définition de la peur, dans ce texte, la peur aussi peut se définir comme une anticipation intellectuelle du mal. Une anticipation intellectuelle du mal sans s'appuyer sur les réactions émotionnelles. Par exemple, quand David fuyait Saül, il arrive à Gath et le roi des Philistins le reçoit. Les princes disent au roi, ce n'est pas ce David-là qui avait tué Goliath. Dont Israël chantait, Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Il est dangereux. Alors David a entendu cela. Il a eu peur. Et il a commencé à faire le fou. Il a commencé à laisser la salive couler sur sa barbe. Alors le roi Achish a dit, mais c'est pas possible. Vous pensez que j'ai pas assez de fous dans mon pays pour que vous puissiez m'en importer d'autres? Mais ce qui a donné à David cette réaction, c'était un mensonge, hein? Il n'était pas fou. C'était la peur. La peur qu'il allait être tué. Des paroles qu'il a entendues, son intelligence a vite fonctionné en disant, hey, si tu ne fais pas attention, on te tue ici. C'est comme quand Abraham ou Isaac, chacun à son tour, n'est-ce pas, quand ils se sont réfugiés, soit en Égypte ou chez les Philistins, ils se sont dit, si je dis que, si ces gens apprennent que celle-ci c'est ma femme, ils vont me tuer. Parce qu'ils avaient de très belles femmes. Alors, je veux dire que tu es ma sœur. La Bible nous dit qu'en effet, pour Sarah, c'était la sœur d'Abraham, c'était la fille de son père. Mais ils avaient des mères différentes. Chez eux, ils se mariaient entre cousins, parents, demi-parents,
puis la même chose avec Isaac. Ce qui l'a amené à dire ce mensonge, c'était la peur. La peur, non pas émotionnelle, mais une anticipation intellectuelle du mal qui pouvait lui arriver. C'est comme les frères de Joseph. Quand Jacob est mort, Genèse 50, j'aimerais qu'on lise ça. Voyez l'anticipation du mal. Alors, excusez-moi, on peut être saisi par cette peur-là et commettre des bêtises. Genèse 50, verset 19. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Donc, cette deuxième espèce de peur peut être une peur à raison ou à tort. Ici, les frères de Joseph, ils avaient très peur. Ils pensaient que Joseph allait se venger. Mais ils avaient tort. Joseph n'allait pas se venger. Voyez, parfois, nous sommes pris de peur par notre imagination. Nous prévoyons, nous projetons une catastrophe qui n'en est pas et qui n'arrivera pas. Alors, je ne sais pas si ce sont les psychiatres, en tout cas, dans une des sections de la médecine, là, on a démontré que les sentiments de peur peuvent provoquer en nous, à la longue, beaucoup de malaise et même des maladies. La peur. Voyez, ce dernièrement, on m'a raconté l'histoire d'une personne qui a été mise dans un cachot. Et on lui a dit, c'était en hiver, que vraiment il fait très froid là-dedans. Bien que c'était bien chauffé, on l'a trouvé mort. Et l'autopsie a montré qu'il avait des sensations de froid exagérées. Simplement parce que la pensée, l'anticipation intellectuelle du mal l'a tué. Dieu, dans cette nouvelle année, veut que nous puissions vivre sans crainte. Que nous puissions annihiler la peur, même si il y a des raisons d'avoir peur. Que ce soit la peur émotionnelle, parce que nous voyons le spectacle devant nous qui nous terrifie, ou que ce soit la peur rationnelle, par anticipation du mal, mais que nous puissions vraiment bannir la crainte. C'est pourquoi, par cette fois, dans ce court texte, il dit, ne crains rien. En fait, pour revenir à l'histoire d'Israël, Israël avait vraiment raison d'avoir peur. Pour revenir, ils avaient beaucoup d'ennemis. Mais pourquoi Dieu insiste pour qu'Israël n'ait pas peur? Eh bien, c'est parce que d'un côté, il y a les ennemis, mais de l'autre côté, il y a Dieu. Nous avons souvent la peur parce que nous avons une vue déséquilibrée. Nous avons une vue non équilibrée des faits. Nous ne pensons qu'aux ennemis. Nous ne pensons qu'aux situations difficiles. Nous ne pensons qu'aux mauvaises circonstances nous ne voyons que Goliath. Une situation, une vue équilibrée voit tout cela, mais à côté voit aussi Dieu. Et c'est ça que le prophète voulait dire à Israël. La présence du Seigneur au milieu d'eux et avec eux constituait une garantie pour eux de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce que Dieu est plus grand que toutes nos craintes. Dieu était avec eux. Et Dieu avec eux, c'était l'assurance de leur succès. Il y avait certainement les Sanballat, mais il y avait aussi Dieu. Il y avait les ennemis, mais il y avait aussi Dieu. Tu dois être assuré d'arriver en bout de course et d'avoir du succès, malgré tout, tout simplement parce qu'il y a Dieu aussi, et surtout qui est là, et qui veut que tu aies ce succès. Dieu voulait calmer leurs craintes en les assurant qu'il marchera devant eux, qu'il travaillera avec eux, qu'il agira en leur faveur. Lorsque on demande à Esdras, le roi lui demande s'il peut lui donner un escadron des militaires pour les accompagner. Il dit non, 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 c'est pas la peine. La bonne main de notre Dieu est avec nous. Dieu va nous accompagner. Oh, merci Seigneur. Alors, dans ce texte, Dieu parle à Israël pour le rassurer. Il lui dit que j'ai là deux serviteurs. C'est peut-être là le cœur de notre message en ce premier dimanche. Les deux serviteurs de Dieu. Le premier serviteur qui est mentionné dans ce texte, c'est le roi Cyrus, roi des Perses. Le roi Cyrus de Perse. Verset 1 à 3, chapitre 41, il fait silence pour m'écouter, que les peuples raniment leurs forces. Voyez comment Dieu s'adresse à ceux qui sont découragés et à ceux qui font trop de bruit en eux. Ils se plaignent, ils se lamentent, ils disent non, faites silence. Il faut qu'il y ait un temps où vous arrêtez pour écouter Dieu. Que les peuples raniment leurs forces, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Et ça, c'est ce que nous avons fait, n'est-ce pas? Pendant tout le mois de prière, nous avons parlé à Dieu. Verset 2. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? Qui lui a livré les nations et assujetti des rois? Qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en un chaume? Qui s'envole, il s'est mis à leur poursuite. Il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Alors, au verset 25, je l'ai suscité du septentrion et il est venu. De l'Orient, il invoque mon nom. Il foule les puissants. Comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier. Alors, au chapitre 44, là, carrément, il le mentionne. Chapitre 44, verset 28, je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Donc, le premier serviteur, c'est Cyrus, le roi des Perses, un homme haut placé, un homme puissant, qui va faire ce que toi, tu n'es pas capable de faire. Il t'ouvrira des portes, il publiera même des décrets pour toi. Je me rappelle quand nous avions prié une année, je crois que c'était en 99, et puis tout à coup, le premier ministre élu de ce pays publiait un décret pour régulariser le séjour de tous les étrangers. Et du coup, plus de frais d'avocat, plus de recours au Conseil d'État, plus de se cacher quand on voit la police, et les séjours ont été distribués comme des petits pains. Ça, c'est Cyrus. Ce que tu ne pouvais pas espérer avoir, tu peux l'avoir. Voyez, ne crains pas cette année-ci. Tu as peut-être écrit la liste de tes vœux. Eh bien, n'aie pas peur, ne te pose pas de questions, comment cela va s'accomplir. Dieu promet de susciter Cyrus quelque part, dans ce pays. Je ne sais pas, il viendra quel mois, pour toi. Je ne sais pas, il viendra d'où, mais il viendra pour toi, pour ton bien, pour que tu réussisses dans ce que tu as décidé de faire, pour que ta vie ne soit pas un échec à cause de toi. Un Cyrus se lèvera quelque part, peu importe sa religion, mais il reconnaîtra la puissance de ton Dieu. Il te dira, je ne sais pas pourquoi je fais ça pour toi, mais je me sens poussé à faire ça. Normalement, je ne fais jamais ça, mais pour toi, je vais le faire. Parce que je trouve que tu es différent des autres. Est-ce que ce n'est pas par hasard ton Dieu là que tu pries? Il y a un Cyrus pour toi. Voyez, quand Cyrus est venu pour accomplir la parole de Dieu, la toute première année de son règne, il a publié ce décret tel que cela est décrit dans le livre d'Esdras, chapitre 1, versets 1 à 4, nous lisons. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit. Voyez ça. Cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Et qu'il monte à Jérusalem en Juda. Et qu'il bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjourne des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires, pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Quelle précision! Voyez, quand Dieu veut qu'on agisse vis-à-vis de toi, la précision sera telle que on ne va pas te rater. On va découvrir que c'est toi, tu as besoin de ce service-là. Il dit, Dieu m'a commandé. Alors, leur peur, c'était, qui va nous laisser partir? Dieu a suscité Cyrus. Ou allons-nous trouver de l'argent pour payer le transport et pour bâtir? Dieu a suscité Cyrus. Mais qui va nous protéger des gouverneurs, etc.? Dieu a suscité Cyrus. Donc la première chose que j'aimerais te dire pour calmer tes craintes, c'est que dans tes attentes, compte à ce que Dieu te suscite ce Cyrus-là. Quand le prophète a donné, il n'a pas précisé l'année,
mais il faut que la parole de Dieu soit accomplie, et la parole s'est accomplie. Ça s'accomplira aussi pour toi. N'oublie pas, le deuxième serviteur, c'est le Messie. Dans ce texte, Dieu dit, il y a Cyrus d'un côté, mais il y a aussi le Messie, loin de Dieu, le Fils de Dieu qui va venir. Chapitre 42, verset 1 jusqu'au verset 9. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité, il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs, et de leur cachant ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Amen. Le Messie. Le Messie sur qui va se reposer l'Esprit de Dieu. Ce Messie, Dieu dit, je t'ai appelé pour le salut, c'est-à-dire pour sauver, pour traiter alliance avec le peuple. Verset 6. Être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Les deux serviteurs, l'un est un homme, est un humain, Cyrus, limité dans sa force. Il y a des choses que Cyrus ne peut pas faire. Cyrus ne peut pas guérir ceux qui sont malades. Cyrus ne peut pas sauver ceux qui sont dans le péché. Alors, pour que tu réussisses certainement, Dieu a suscité le deuxième serviteur. Celui-là, il est spirituel, il est Dieu, le Messie. Pour que là où l'homme a échoué, Dieu puisse réussir. Pour que cette porte-là qui ne peut pas s'ouvrir, parce qu'un homme ne peut pas l'ouvrir, lui qui a les clés de David, qui ouvre et personne ne peut refermer, il puisse ouvrir. Le Messie. Pour que la chose impossible aux hommes, eh bien Dieu le fasse, le rende possible. Je prends quelques exemples assez simples. Pour le travail, parfois tu as besoin d'un Cyrus. Pour le séjour, peut-être que tu as besoin d'un Cyrus. Tu as besoin des choses matérielles, peut-être besoin d'un Cyrus. Mais quand tu auras besoin de te marier, là, le gouvernement ne peut plus intervenir. N'est-ce pas? Pour te choisir une fiancée ou un fiancé, surtout si tu as quelques problèmes, soit dans ton physique ou dans ton âge. C'est là que le Messie peut intervenir pour toi. C'est là que tu vas trouver la faveur de Dieu. Donc, il y a des choses que l'homme peut faire pour nous. Il y a des choses que seul Dieu peut faire pour nous. Le Messie, c'est d'abord la lumière. Voyez, il y a des gens en qui Dieu a mis
un potentiel de projet pour la vie. Alors, lui, quand il met la lumière, tout à coup, on se dit, mais tiens, pourquoi je ne peux pas entreprendre ça et ça et ça? Alors, quand on te demandera, comment tu es arrivé à faire ça? Je ne sais pas. J'ai eu juste une idée. Ça, c'est le Messie. C'est la lumière qui est venue en toi. Faire sortir de prison le captif. Alors, la prison, bon, essentiellement, il y a des gens qui sont envoûtés par la sorcellerie. N'est-ce pas? Certains, c'est même leurs propres parents. Ils ont fait tellement des choses occultes qu'ils ont lié leurs enfants. D'autres, c'est la famille, tout simplement, tout court, des gens qui ne vous aiment pas. Vous allez à l'hôpital. C'est vrai qu'il y a des choses qui arrivent. Hein. Vous n'arrivez... Après, depuis votre mariage, la grossesse ne vient pas. On va à l'hôpital, on examine et tout, on trouve que vous êtes tout à fait normal, madame. C'est parce que ton oncle est là. Je ne sais pas, Matadi ou... Il paraît que c'est à Matadi là-bas que les gens sont terribles. Parce que les oncles de Matadi... Ah, il est mécontent parce que la dot là, il n'a pas tout eu. Il n'a rien eu. Alors, bon, qu'est-ce que le médecin peut faire? Rien du tout. Alors là, cet oncle de Matadi te met dans le cachot. Alors nous avons le Messie. Il va te sortir de ce cachot-là. Puis ils vont apprendre que tu attends un enfant. Ça, c'est bien. Puis tu vas avoir cet enfant. Au Congo, il y a des choses terribles. On m'a raconté l'histoire d'un jeune homme de Bandundu. À Bandundu, là, c'est pire. Hein. Il paraît qu'il était ici en Europe. Il regarde la télévision. À la fin de l'émission, il éteint la télévision. Quand il veut sortir, il entend une voix qui sort. Il dit, non, ne bouge pas. Il regarde, c'est son père. Son père est dans la télévision éteinte là. Maintenant, c'est la télévision des sorciers. Toi, mon fils, depuis que tu es parti en Europe, tout l'argent tu manges seul. Oh. C'est ce qu'il te dit, mais c'est pas possible. Il veut partir, ne bouge pas. Les gens de Bandundu. Ah, c'est comme un autre là. Il veut faire venir son père en Europe. Il envoie l'argent à son père. Et puis son père voyage jusqu'à Kinshasa. Et puis il avait confié les soins à son ami, l'ami du monsieur qui est en Europe. Et puis le papa fait venir le papa de l'autre. Enfin, l'ami fait venir le papa à Kinshasa. Et puis... Le papa voit chaque matin, le monsieur part, et puis il revient, il part, il dit, mais mon fils, qu'est-ce que tu fais? Tu pars? Je lui dis, non, je fais les démarches pour t'envoyer en Europe. Il dit, ah bon? Juste pour aller en Europe? Alors, le matin, le fils, ici en Europe, quelqu'un frappe à la porte, c'est son père. Ah non, il dit d'abord, il dit, mais non, je connais déjà la maison là-bas. Alors, c'est son père, ah, il accueille papa, etc. Il prend le téléphone, appelle son ami, il dit, merci beaucoup, le papa vient d'arriver, il dit, quoi? Il est venu comment? Parce que nous sommes, j'ai son passeport ici. Il était dans la maison. Il veut sortir de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Le Messie. Il y a des choses que Cyrus ne peut pas faire. Mais le Messie peut le faire. Briser les chaînes. Libérer les captifs. Donc, ces deux serviteurs-là, Dieu les utilise tour à tour. Donc, il dit à Israël, n'aie pas peur, tu as d'une part Cyrus, et d'autre part, le Messie.
pour que tu réussisses.
C'est pour dire que Dieu, dans sa volonté, il veut nous amener à réussir. Alors, quand je lis la fin du texte de Ésaïe 41 que nous avons lu, il dit au verset 17, « Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. » Alors, voici des promesses fortes pour nous encore cette année. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Voyez ce que ce texte veut dire. Il y aura un bouleversement total dans ta vie. Un bouleversement que tu n'as jamais espéré voir venir. Généralement, le désert est toujours désert. Le sec reste le sec. Mais Dieu dit, n'aie pas peur de faire ce bouleversement. Le désert va être transformé en un lieu de fertilité, de cours d'eau et même des étangs. Fera jaillir des fleuves. Ce mot veut dire que ça sera quelque chose de spontané, de brusque. Alors, verset 19, je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Ce sont des arbres qui sont des arbres très recherchés, mais qui poussent dans la forêt. Il dit, je vais les mettre dans le désert. Cela veut dire beaucoup de choses. Cela veut dire qu'il y a des gens, à cause de leur situation, qui n'espèrent pas grand-chose, et même de la vie. Vous savez, il y a des gens qui pensent que leur vie va se dérouler comme ça, et puis ça va finir. Mais non, Dieu promet qu'il va mettre ce qui est précieux dans ton désert. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble. Bon, je dois vous confesser que j'ai pas regardé dans le dictionnaire la signification de l'orme et le buis. Je suppose que ça va être des grands arbres. Afin qu'ils voient. Qu'ils voient. Alléluia. Qu'ils sachent. Qu'ils observent. Qu'ils considèrent. Que la main de l'Éternel a fait ces choses. C'est impressionnant de voir la main de Dieu agir dans une vie qui jadis était condamnée au désespoir, à l'échec, méprisée, abandonnée, ridiculisée, et du coup, tout reprend vie. Alors les gens qui s'étaient éloignés de toi, soit ils serrent le cœur, ils reviennent, soit ils restent dans leur confusion. Mais cette année-ci est une année que, je crois, Dieu va faire des grandes choses dans la vie des uns et des autres. Je disais que quand l'année commence, c'est la même chose pour tout le monde. Mais chacun de nous, par sa détermination et par sa prière et par la proclamation de la parole de Dieu, peut dessiner ce qu'il veut. Et je souhaite vraiment que cette année-ci, tu puisses faire un beau dessin de ta vie. N'aie pas peur, Dieu fera les choses. Oh, je me rappelle décembre 84, janvier, 1er janvier 85, nous étions à Kinshasa. Nous sommes assis,
toute notre petite famille, ma femme, mes enfants et moi-même, pour dessiner notre vie en 85 là et notre futur. Ça paraît un peu comme ça, théorique, mais ça, c'est ce que nous avons fait. Et je me rappelle le 31 décembre 85, Dieu a accompli l'image. 31 décembre 85, nous n'étions pas à Kinshasa. On n'était plus à Kinshasa. Donc, le 1er janvier, nous étions à Kinshasa. Nous avons dessiné notre vie. Le 31 décembre, nous étions à Woluwe-Saint-Lambert, rue du Pontonnier, à Bruxelles. Et nous avons vu ce que Dieu a fait. Et nous avons remercié le Seigneur pour sa fidélité. Tout le dessin était là. Mais c'était le dessin tracé en janvier. Alors, on s'est dit, mais pourquoi les autres années, on n'avait jamais fait ça? Parce que les autres années, qu'est-ce qu'on a fait? On a pleuré, on a gémi, on s'est lamenté, on s'est inquiété. Notre vie était une vie comme ça. Mais à partir du moment que nous avons décidé de marcher selon la parole de Dieu, Dieu confirme sa parole. Les promesses qui sont dans Ésaïe 41, ma prière, c'est que ce soit les promesses qui vont se réaliser. Pas dans le futur, cette année-ci. De toute façon, les grands arbres commencent toujours par d'abord les petits arbres. Je veux voir un petit cyprès dans ta vie, n'est-ce pas? Et voir un petit olivier dans ta vie. Nous voulons consacrer cette année-ci à un mot important. La foi qui bannit la crainte. Que cette année-ci soit une année où notre foi supplante les craintes. Peut-être que les autres années, nous avons toujours eu des peurs, mais que cette année-ci, nous puissions cultiver la foi en la parole de Dieu. Je voudrais lire avec vous la confession de David au psaume 56. Et ce sera notre conclusion. Parce que il est très important que nous développions cette année-ci la foi. Psaume 56, verset 3 jusqu'au verset 14. Nous lisons ceci. Tous les jours, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux. Ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse ils portent atteinte à mes droits, ils n'ont à mon égard que des mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples, tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent, au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi, je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole, je me confie en Dieu, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes? Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Amen. Voyez, dans ce psaume, si vous le lisez de très près, vous verrez que il était tellement accablé qu'il a beaucoup pleuré. Regardez, verset 9. Tu comptes les pas de ma vie errante, quand je n'avais même pas de domicile. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Donc, il errait et il pleurait. Peut-être que parmi nous, il y a des gens qui sont dans cette situation d'errance et de pleurs. Eh bien, lui, il errait parce qu'il avait des ennemis qui lui cherchaient vraiment du mal. Au verset 3, il dit, « Tout le jour, donc du matin jusqu'au soir, mes adversaires me harcèlent. » Vous savez ce que c'est que le harcèlement? C'est vraiment une sollicitation pour te faire du mal, ils n'arrêtent pas. Deuxième chose, ils sont nombreux. Ils me font la guerre. Alors, au verset 7, troisièmement, ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. Alors, c'est une situation qui provoque la panique, la peur. On ne sait pas s'il va tenir encore combien de temps. Mais voici quelques résolutions pour la foi qu'il a prise. Verset 4. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Ça veut dire, il n'y a pas que les ennemis, il y a Dieu. Donc, je pèse la part des ennemis et la part de Dieu. Et je m'appuie sur Dieu. Ça, c'est l'expression de la foi. Au verset 5, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. En fait, il avait avec lui souvenance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, tu ne périras pas, tu ne mourras pas, tu vas réussir. Alors, il se glorifie dans cette parole-là. La foi n'est pas l'absence des problèmes. La foi vient quand il y a des problèmes et supplante les problèmes. Tu dois vivre. Tu dois vivre. Il y a de ces problèmes-là qui te coupent même l'appétit. Non, tu dois, malgré les problèmes, reprendre ton appétit. C'est ça la foi. Je vis avec les problèmes. Mais ma foi en Dieu est au-dessus des problèmes. Il y a de ces problèmes-là qui t'enlèvent le sommeil. Alors, la foi va écraser ces problèmes et tu vas reprendre ton sommeil. Les problèmes ne sont pas terminés, mais la foi en Dieu supplante ces problèmes. La parole de Dieu. Je me confie en Dieu. Verset 5, deuxième phrase. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Voyez, il dit, je ne crains rien. C'est une proclamation. C'est une confession positive. N'aie pas peur, ne crains rien, je suis avec toi. Alors, ta réponse doit être, je ne crains rien. Dieu est avec moi. Que peuvent me faire des hommes? Les hommes ne peuvent faire que ce que Dieu leur permet de faire. Il y a des choses que Dieu ne leur permettra jamais. Alors, ils ne peuvent pas le faire. S'ils te font quelque chose, c'est que Dieu a permis. Mais si Dieu a permis, c'est que Dieu t'aidera à supplanter, à surmonter. Il est écrit, je crois, c'est 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation qui n'ait été donnée n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force, mais avec la tentation, il préparera le moyen pour que vous puissiez la surmonter. » Alors, au verset 10. « Mes ennemis reculent, au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. C'est-à-dire, j'ai prié, la prière fait reculer mes adversaires. Mais ils reculent, mais tu n'as pas la victoire. Hein? Ils ont simplement reculé, mais ils vont revenir encore. Au verset 11, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Et nous devons nous glorifier dans la parole de Dieu. Alors, au verset 14, il termine en disant, « Tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. » En fait, si vous suivez le fil des idées, c'est que le verset 14, c'est la conclusion de sa victoire. Il a combattu par la foi, il a pleuré, il a prié, il a crié, il a proclamé la parole de Dieu, il a confessé sa confiance en Dieu, il a chassé la peur, et il a vu la main de Dieu qui a délivré son âme de la mort et ses pieds de chute. Cette année-ci, nous voulons être des hommes de foi, proclamer la foi dans la parole de Dieu, proclamer notre victoire et combattre avec la dernière énergie la crainte et la peur. Chasse toute crainte, chasse toute peur de ta vie, proclame la parole de Dieu jusqu'à ce que tu vas voir la main de Dieu accomplir ce que ton cœur désire.